La vie est quand même extraordinaire. Et pour moi, quand je pense à la vie, je pense à Dieu. Je pense au Créateur. Je dis waouh. Et je me pose la question, je dis mais quelle est la place de l'enfant dans le plan de Dieu? Comment, quelles pourraient être les choses pour lesquelles Dieu a un regard particulier pour les enfants? Et j'en ai trouvé deux, et je voudrais vous partager cela donc ce matin. Et je voudrais vraiment vous le partager parce que je pense que c'est une richesse pour nous tous. C'est aussi une manière de nous aussi prendre conscience de ce qu'il y a aussi encore à faire. Alors je voudrais peut-être, avant de plonger nos yeux dans la Bible, puisque c'est là qu'on va aller trouver ces deux éléments, hein, je voudrais peut-être qu'on s'incline dans la prière encore. Prions. Seigneur, merci pour le fait que tu es au milieu de nous et le fait que tu parles à nos cœurs et encore aujourd'hui. Puisses-tu encore faire vibrer nos cordes sensibles et nous amener à la conscience de ta réalité, mais aussi et aussi combien tu es bon et combien tu désires une relation parfaite, une relation bonne avec nous. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous éclaire et nous guide au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi de prendre une histoire toute simple peut-être, parce que nous avons les enfants de l'école de dimanche ici. Ce serait chouette quand même que nous ne prenons pas une histoire qui va les faire perdre. Mais on prend une histoire simple que les gens connaissent, tout le monde connaît, puisque même dans le commerce, on en parle. Eh bien, nous allons prendre une histoire simple comme celle-là, et à travers cette histoire, on va dégager quelques idées. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Je vais prendre Exode chapitre 1. Nous allons faire une longue lecture. Chapitre 1 jusqu'à du verset 8 au verset 22, puis le chapitre 2 du verset 1 au verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui, donc sur le peuple d'Israël, des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus le peuple multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez des enfants, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu leur fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. On passe au chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Les Lévi, c'est une des 12 tribus d'Israël. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. Ce qui lui arriverait, pardon. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner avec, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. » Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. C'est une époque difficile pour le peuple d'Israël. Ils sont réduits à l'esclavage et astreints à des travaux durs. Pharaon, non seulement leur impose cette dureté dans le travail pour les accabler, mais aussi Pharaon instaure une nouvelle politique de limitation des naissances. Mais c'est une politique criminelle, puisqu'il s'agit de supprimer les garçons. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent un danger pour la société égyptienne. Ils représentent un danger pour l'intégrité territoriale d'Égypte. Quelle ressemblance, n'est-ce pas ? Quelle ressemblance avec notre monde aujourd'hui ? En Chine, n'est-ce pas? C'est là qu'on a procédé aussi aux limitations des naissances. Je pense qu'ils avaient dit qu'ils devaient, par famille, avoir un enfant. Donc je suppose que tous les autres... Et dans certaines familles, on ne veut que des garçons. Donc, on élimine les filles. Voyez-vous? C'est pas qu'en Égypte, en ce temps-là. Ça se passe encore dans notre monde aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui n'a pas à se comparer avec ce monde de cette époque-là, mais à rivaliser, puisque c'est la même chose. Aujourd'hui, comme au temps de cette époque en Égypte, l'homme, l'humanité, témoigne de peu de respect pour les enfants. Et ce, malgré l'apparence de sourire et de sympathie que parfois on leur présente. Ma sœur qui vit en Allemagne avait rétorqué une fois à une dame allemande. Elle avait rétorqué comme ça parce que la dame allemande s'extasiait devant sa petite fille, donc ma nièce Christelle. Elle était encore bébé, elle avait encore peut-être moins d'un an. Et la femme s'extasiait devant ce petit enfant. Et ma sœur, en parlant un allemand correct, lui a dit, vous êtes en train de vous extasier de cet enfant parce qu'elle est encore un bébé. Mais quand elle aura 20 ans, est-ce que vous ne la traiterez pas d'une immigrée qui n'a pas sa place dans cette société? Voyez-vous, c'est notre société. Les enfants ont peut-être une certaine place, mais souvent c'est une apparence. Bien sûr, pour d'autres enfants, heureusement, nous avons encore quelques parents, quelques associations qui protègent les enfants, qui pensent aux enfants, qui les aident. Mais considérons un peu la vie des enfants dans notre monde aujourd'hui. Il y a des enfants qui, très jeunes, commencent à travailler en Inde, en Afrique, en Asie. Ils commencent à travailler très jeunes pour un salaire de misère, exposés à des conditions de travail terriblement dangereuses pour eux, pour leur santé. Que dire des enfants recrutés pour faire la guerre? C'est terrible. Des enfants de 8 ans, de 9 ans, à qui on apprend à tirer une arme, que l'on drogue au maximum pour qu'ils servent de boucherie, de chair, afin de garder en vie encore le maximum possible de potentiel militaire adulte. Que dire de tous ces enfants en Belgique ou ailleurs qui sont abusés par des pédophiles? Que dire même des enfants simplement victimes de toute forme d'abus de pouvoir sur eux. Peut-être qu'ils ne sont pas abusés dans le sens peut-être physique, sexuel, mais ils sont peut-être abusés psychologiquement par peut-être des parents abusifs, etc. Le monde, notre monde, n'a pas toujours le respect pour les enfants. Et moi, je voulais justement mettre ça en opposition avec Dieu. D'entrée de jeu, dans ce texte, première chose que je vois dans ce texte, Dieu veut le bien des enfants. Dieu ne veut pas voir ses enfants hébreux mourir. Dieu veut que ses enfants vivent. Il veut leur bien. Il veut leur vie. Ces femmes, ces sages femmes, si elles refusent de tuer les bébés garçons, c'est parce qu'elles savent que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Elles savent où elles ont appris en tant que femmes hébreues. Elles ont appris que les enfants font partie du plan de Dieu pour l'humanité. Effectivement, quand Dieu dit multipliez, remplissez, soyez féconds, remplissez la terre, qu'est-ce que Dieu dit par là? Ne dit-il pas, vous allez aussi avoir des enfants? Les enfants sont un maillon, une étape de vie pour continuer la vie, pour poursuivre la vie. Les enfants sont des êtres créés par Dieu, des êtres à l'image de Dieu. Dieu nous donne la vie et Dieu nous donne de donner la vie. Dieu a créé cette possibilité-là. Et donc, première chose qui me frappe, c'est que les enfants, Dieu les a placés dans l'existence humaine comme une étape fondamentale, obligée, comme une étape nécessaire pour l'existence humaine, pour la continuité de la vie. Ils sont un maillon pour cela. Et dans ce sens, dans la Bible, il y a des exemples, beaucoup d'exemples où on voit Dieu qui se présente comme un protecteur d'enfants, comme un défenseur des enfants. Regardez les lois que Dieu donne dans la Bible. Il se présente lui-même comme le père de la veuve et de l'orphelin. Il dit qu'il est le Dieu des faibles, de ceux qui ne peuvent pas se défendre. L'image est encore plus frappante avec Jésus-Christ, lorsqu'on voit son attitude vis-à-vis des enfants. Les disciples disent, non, ne venez pas, vous ne devez pas embêter Jésus. Jésus dit, mais enfin, laissez-les venir à moi. Jésus est l'ami des enfants. Il veut être leur ami. Dans la Bible, il y a cette image qui m'a beaucoup frappé pour montrer simplement l'exemple de la manière dont Dieu agit. Il écoute déjà les prières des enfants. Je veux que tu mettes le texte de Genèse chapitre 21. Il s'agit d'Ismaël. Ismaël, vous savez, c'est ce fils que Abraham a eu avec l'esclave Agar. À un moment donné, ça tourne mal dans le noyau familial. Ismaël commence à se moquer de Sarah, d'Isaac et de Sarah, etc. Le climat devient malsain et Sarah demande, Genèse 21, je ne sais pas si tu avais... Ah, 17. 17, à partir 17 jusqu'au... Donc, voilà que finalement, sous la pression de Sarah, pas toi, hein, l'autre Sarah, la femme d'Abraham, hein, sous la pression de Sarah, et en accord avec Dieu, finalement, Abraham est obligé de chasser l'esclave et l'enfant. Et là, il se retrouve dans le désert. Ok ? Il se retrouve dans le désert et il se passe un drame. C'est que l'enfant va mourir. L'enfant va passer par les rations qu'on leur a données pour traverser le désert sont terminées. La mère voit son enfant qui pleure de faim. Et Agar s'éloigne. Il dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Je ne veux pas voir mon enfant mourir de faim. Et voilà le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Vous voyez, Dieu fut avec l'enfant. Dieu veut la vie des enfants. Ça, c'est une première chose qui m'a vraiment frappé. C'est que les enfants sont un maillon important pour la vie. Et Dieu qui donne la vie a de la considération pour ce qui concerne la vie des enfants. La deuxième chose que j'aimerais pointer aussi sous votre regard, c'est avec Moïse. Ce qui me frappe, donc Exode 2, hein, ce qui me frappe, c'est que dans le début de la vie de Moïse, la manière dont Dieu va prendre le contrôle de la vie de David, de Moïse, pardon. Comment il va prendre le contrôle des événements de la vie de Moïse. Je dirais même plus, c'est la manière, ce qui me frappe, c'est la façon dont Dieu va orienter, diriger le destin de Moïse. Incapable de le garder pendant plus longtemps, les parents de Moïse vont décider de tenter de sauver sa vie en le mettant sur un couffin pour aller sur le Nil. Vous savez que le couffin, on appelle ça aussi Moïse, hein? Vous savez ça? C'est aussi en référence avec cet événement-là. Et voilà que le couffin s'en va. Mes amis, je vous pose une question. Croyez-vous que c'est par hasard? Croyez-vous que c'est vraiment par hasard que ce couffin-là a croisé le chemin de la fille de Pharaon? Croyez-vous que c'est par hasard que ce couffin-là était accompagné de la grande sœur, Myriam, qui allait curieusement regarder un peu comment le couffin est en train d'évoluer? Est-ce que vous croyez que c'était par hasard que ce jour-là, la fille de Pharaon avait décidé d'aller se baigner, justement à l'endroit où le couffin allait arriver? Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que la fille de Pharaon va prendre compassion de cet enfant, avoir pitié au point de le prendre en protection? Ma réponse à toutes ces questions-là, c'est non, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu. C'est Dieu qui est aux commandes, c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui fait en sorte que cette vie-là soit une vie qui soit menée de cette façon-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu dans Moïse le futur libérateur du peuple d'Israël. Plus encore, Dieu a voulu que Moïse soit le libérateur du peuple d'Israël. Dieu a vu en lui cette potentialité. Mes amis, j'aimerais aussi dire une deuxième chose. Mais Dieu voit dans les enfants des potentialités insoupçonnées. Nous ne les voyons pas, nous. Nous, pour nous, c'est un petit être humain qui va grandir, qui fera son chemin, mais on ne voit pas plus. Parfois, oui, on peut être très dans l'admiration pour son enfant. Il est super intelligent, il réussit très bien à l'école, il comprend bien les choses. On est fier de cela, mais on ne connaît pas toutes les potentialités. Mais Dieu les voit, Dieu les connaît. Et Dieu, parce qu'il connaît qu'il y a de la potentialité chez les enfants, alors il leur donne déjà de la valeur. Les enfants ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu voit tous ces potentiels qui est derrière. Il voit tout le destin d'un enfant. Il y a là pour Moïse, pour David, pour Jérémie, pour Jésus-Christ, pour les apôtres, pour chacun d'entre nous, il y a là quelque chose qui montre que dès notre naissance, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu voit en nous des potentialités incroyables. Que Dieu voit en nous, en cet être fragile, il voit en nous un être qui fera son chemin et qui pourra un jour devenir enfant de Dieu, qui pourra un jour être utile aux autres. Il voit cette potentialité d'un serviteur pour son royaume. Et moi, c'est comme ça que je comprends. Quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vois derrière cette phrase, non pas une insistance sur l'innocence des enfants. Non, la Bible est remplie d'allusions sur la méchanceté des enfants, le côté folie, côté fou des enfants, le fait qu'il faut parfois les corriger, parce que parfois ils peuvent se détourner des voies, etc. Non, on n'insiste pas sur l'innocence. On insiste sur leur dépendance, leur état total de dépendance. Un enfant, il dépend totalement de l'adulte pour sa nourriture, pour son logement, pour son déplacement, pour son éducation, pour des choix à faire. C'est pour ça que parfois certains adultes sont abusifs. Ils abusent de leur position d'autorité pour non pas conduire, non pas travailler avec l'enfant, mais au contraire le détruire, tout petit encore. L'enfant dépend totalement. Et la foi de l'enfant à l'égard de la personne de qui il dépend est totale. Est totale. Un enfant croit totalement à l'amour de ses parents. Il croit totalement à la capacité de ses parents à faire tout ce qui est nécessaire pour lui. Moi, cet exemple dans la Bible me frappe énormément. Isaac est en train d'aller être sacrifié. Il part avec son père, il va le sacrifier. Son père lui dit, mais papa, il y a un truc qui m'échappe dans cette affaire. Il y a un stut. Est-ce que c'est normal que nous puissions partir sur la montagne pour faire un sacrifice et il n'y a pas de bête? Où est la bête? Et Abraham répondra avec une phrase qui deviendra d'ailleurs célèbre, l'Éternel pouvoir. Ils arrivent sur la montagne, il se fait sûrement ficeler, il se fait sûrement mettre sur les cordes, mais l'enfant a toute confiance. Son père ne le tuera jamais. Mais non, c'est son père, non? Jusqu'au moment où Dieu dit, stop, je voulais juste voir si tu étais vraiment à moi. Les enfants dépendent totalement et Dieu voit ça. Il voit cette potentialité, c'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai choisi le mot potentialité, cette potentialité, ça veut dire cette capacité à ce qui est déjà en puissance en lui, ce qui peut se développer, ce qui peut devenir quelque chose de plus consistant. En parlant de potentialité, je veux dire que la prise en charge de l'adulte consiste à faire grandir un enfant, à le faire devenir ce pourquoi Dieu l'a appelé, à le faire avancer dans son destin. La potentialité, c'est ce qui est à l'intérieur de l'enfant, mais qu'on peut travailler. Un enfant doit grandir avec des valeurs. Et pour nous, les chrétiens, ce sont les valeurs chrétiennes. Alors, notre façon de nous occuper de l'enfant influence aussi son destin. Si nous lui donnons beaucoup de paroles de Dieu, c'est évidemment la parole de Dieu qui va aller de l'avant. Mais Dieu sait tout ça. Il sait aussi que l'enfant peut-être dévira sur la route. Hein. Il sait très bien que parfois l'enfant va se rebeller. Hein. Il le sait. Voyez, Dieu est extraordinaire. Parce que bien qu'il sache, bien qu'il ait tracé notre destin, qui consiste à le rencontrer, à venir à sa rencontre, en même temps, Dieu sait que ça ne sera pas un chemin droit. Ça sera parfois un chemin sinueux, avec parfois des arrêts sur le chemin. Des statu quo, des arrêts tout court. Dieu le sait, mais Dieu continue à toujours œuvrer pour tracer ce destin. Vous savez, ce texte de Psaume 139, excuse-moi malheureusement, je ne t'ai pas donné ça, je t'avais dit qu'il y avait des textes qui m'avaient échappé hein, dans la liste là. Le Psaume 139, vous le connaissez sûrement, c'est le Psaume de David. Il dit au verset 13, du verset 13, donc on va lire au verset 16, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, c'est qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue d'être que je suis une créature merveilleuse. Quelle audace! Est-ce qu'il savait s'il était beau ou pas? Est-ce qu'il savait s'il était si merveilleux que ça ou pas? Mais ce qu'il dit, il dit avec les yeux de Dieu. Comprenez? Il ne le dit pas avec les yeux humains. Parce que moi, si je me regarde en tant qu'humain, peut-être ma femme peut dire que je suis une créature merveilleuse, merci chérie. Mais mes élèves qui sont là peuvent dire, oh, monsieur Boula, il a un gros ventre. Hein, Sabrina? Ou bien, mes enfants peuvent dire, ah, papa, il est devenu vieux jeu, oh. Voyez-vous? Mais quand David s'émerveille, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, il le dit parce qu'il voit comment Dieu le regarde. Parce qu'il sait que Dieu le regarde comme une créature merveilleuse. Je poursuis. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Waouh! Bien avant même que je sois un être humain, Dieu me connaissait déjà. Il m'avait déjà vu. Et il continue. Et sur ton livre de vie étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Voyez-vous? C'est ce que je disais. Dieu voit en nous une potentialité. Et c'est pour ça qu'il nous accorde de la valeur. Il veut travailler. C'est comme un jardinier qui veut travailler sur son jardin en espérant produire du fruit, en espérant produire de belles fleurs. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. J'aimerais ce matin vraiment que nous puissions voir ces deux points-là. À la fois, le fait que l'enfant, dans le plan de Dieu, est un maillon important et incontournable. Et c'est là que se pose toute la nécessité de respecter sa vie. Et puis, l'enfant, c'est une potentialité pour Dieu. Dieu voit dans l'enfant quelqu'un qui pourrait un jour le servir. C'est là que je vois la nécessité et l'importance à nous les adultes de former la jeunesse, d'éduquer les enfants selon Dieu. Bien sûr, vous êtes nombreux ici à l'avoir fait et à le faire encore. Et je vous encourage à continuer. Même si parfois on est surpris à l'adolescence ou quand ils deviennent grands par des changements de route. Mais nous continuons à croire que ce que nous avons semé, cette potentialité, va prendre forme et va devenir quelque chose de consistant. Dieu donne de l'importance aux enfants parce que Dieu voit des futurs partenaires. Il dit, il avait déjà vu à l'avance et son nom était déjà inscrit. Tous les jours de sa vie étaient déjà inscrits. Dieu avait déjà vu tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut que sur cette route, il sème des repères qui permettront à cette personne de pouvoir choisir le bon chemin qui est le chemin vers Dieu. Dieu est merveilleux. Alors, si Dieu donne autant de valeur, comme il a fait avec Moïse, au point de mobiliser des moyens pour que Moïse soit ce que Moïse est devenu, si Dieu peut se mobiliser à ce point-là pour tracer notre destin, le destin des hommes, alors il nous incombe aussi d'être là aussi comme un chemin pour cet enfant, ces enfants, afin qu'un jour, sur le chemin, ils puissent, au bout du chemin, devenir des hommes de Dieu, à la stature de Christ. Dernière chose, le texte, et je vais terminer avec ce texte-là, en guise de conclusion, le texte de Marc. Marc 9, 33, oui. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils gardèrent silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, ça, c'est la discussion des adultes, ça. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous les serviteurs. » Dans le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants... » Je répète la phrase. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. J'aimerais juste qu'on retourne sur le verset 33-34, là, si tu veux bien remonter l'autre partie. Regardez ça. Verset 36. Il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Moi, ça m'a scotché. Quand j'ai vu, il l'a placé au milieu d'eux. Il a centralisé la concentration de ces hommes qui se disputaient pour savoir, attends, c'est moi le plus important que toi, moi je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent. Voyez-vous, ça c'est l'être humain qui veut toujours se comparer à l'autre pour savoir que je suis plus grand, plus important, plus fort, meilleur, etc., ton chef, etc. Voilà que Jésus déplace le centre de gravité. Ce n'est plus autour de ces adultes qui se disputent. Il place l'enfant au milieu. Tous les regards sont maintenant tournés sur l'enfant, au milieu d'eux. Il devient le point de concentration, le point de regard, le centre de gravité. Est-ce que y a-t-il un verset qui peut souligner plus que ça l'importance des enfants aux yeux de Dieu? Et peut-être nous aussi, juste pour terminer, sans donner de leçons, peut-être justement nous aussi penser à cette idée que de temps en temps, dans nos guerres de pouvoir, dans nos abus de pouvoir, se dire peut-être qu'il vaut mieux remettre le centre de gravité vers quelqu'un d'autre, vers nos enfants peut-être, pour mieux peut-être les aider à grandir. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci surtout pour le fait que nous pouvons ensemble la partager. Le peu que j'apporte, c'est pas le plus important, les mots, Seigneur, mais le plus important, c'est ce que toi tu peux faire avec le peu que je fais, Seigneur. Comment toi tu peux toucher les cœurs et agir avec chacun de nous. Parce que, après tout, la route que nous faisons chacun est une route avec toi, Seigneur, dans ton intimité. Aide-nous à être ces adultes qui considérons, qui avons de la considération pour les enfants comme toi, Seigneur, tu l'as, comme toi, tu l'as, Seigneur, qu'on respecte leur vie et qu'on travaille à ce qu'ils grandissent selon des valeurs chrétiennes. Seigneur, merci pour ce que tu peux encore faire dans nos vies et dans les vies de nos enfants dans l'Église et aussi dans le monde. Sois béni, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.